Le mois de juin est riche avec ces trois grandes fêtes, celle d'aujourd'hui, la Trinité, et celle du Saint-Sacrement qui va venir, et du Sacré-Cœur de Jésus, sans parler du Cœur Immaculé de Marie. On contemple vraiment Dieu dans sa divinité et à tous les degrés de perception du salut qui nous sont offerts. Là, vraiment, c'est le mystère de Dieu, mais qui est un mystère de miséricorde, comme tout de suite l'évangile de Jean nous le montre. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Dieu ne demande rien d'autre aux hommes que d'être des enfants, c'est-à-dire des hommes de foi, d'accueillir la foi. Alors, pas à la manière des démons. Les démons ont la foi, eux aussi. Il n'y a pas d'athéisme dans le monde démoniaque. Ils savent bien que Dieu existe, et même il est leur principal ennemi, leur unique ennemi, pour tout dire. Mais cette foi-là ne se transforme pas en louange, elle n'est pas l'offrande d'une vie entre les mains du Père, comme Jésus sur la croix, c'est tout le contraire. C'est une foi complètement inféconde. Alors effectivement, quand on n'a pas cette foi, eh bien, on est déjà jugé, dit Jésus ici. Parce que Dieu est incontournable. Dieu est incontournable. Le péché suprême, c'est de refuser Dieu. C'est avant même tous les péchés que nous faisons dans notre vie quotidienne, dans nos actes, notre vie morale. Le péché fondamental auquel répond la peine fondamentale de l'enfer, l'absence de Dieu, eh bien c'est de ne pas vénérer Dieu. On peut mal le servir, mais ça, Dieu le pardonne. Alors il nous dit au contraire à ceux qui le reçoivent, eh bien il nous promet le salut, et il nous donne une chose merveilleuse, il nous introduit dans ses secrets divins. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Dès l'Ancien Testament, là on a vu Moïse en première lecture, mais il y a aussi, avant lui, Abraham. Et à Abraham, vous savez, vous vous souvenez, ce fameux épisode du chêne de Mambré, au plus fort de la chaleur du jour, Abraham se tient devant sa tente, bien à l'ombre, et Dieu se dit, depuis sa gloire, je vais aller voir Abraham. Allons trouver, c'est un pluriel, allons trouver notre serviteur Abraham. Et le verset suivant commence par « Abraham leva les yeux et il vit trois hommes, trois anges. » Entre Dieu décide d'aller voir Abraham, l'unicité de Dieu, l'unicité dans la volonté, dans le projet, et la manifestation, on passe de Dieu un à Dieu trine. Dieu vient, mais sous la forme de trois personnes. Là, sous le livre que j'ai lu, l'Évangile, il y a ce beau tableau de la Trinité de Roublev. Trois jeunes gens identiques, parce qu'ils ont la même nature divine, mais qui ne font pas les mêmes gestes, qui n'ont pas la même place dans la Trinité. La Trinité est montrée à Abraham d'une manière incompréhensible. Il ne peut pas la recevoir, il ne peut pas entrer dans ce mystère, et Dieu ne le lui explique pas. Mais comme Abraham était l'ami de Dieu, Dieu a voulu lui faire ce cadeau merveilleux de l'introduire dans son intimité, comme il le fait pour nous. Et nous avons en complément toutes les instructions du Christ. Nous savons ce qu'est la Trinité, qui est la Trinité. On pourrait presque utiliser ce mot-là pour Dieu dans le langage courant. Et c'est une manifestation d'amitié qu'il fait à Abraham. Il sait bien qu'il ne peut pas encore le manifester aux hommes, ce secret-là. Mais Dieu est tellement bon, il ne peut pas s'empêcher de le montrer quand même. Et il apparaît comme ça sous la forme de trois hommes ou trois anges, parce que Dieu se manifeste par l'intermédiaire des anges. C'est une figure, bien sûr, mais une figure qui traduit toute l'amitié de Dieu pour Abraham et à travers lui, pour tous ceux qui auront la foi. Le Dieu de la Trinité, et voyons un peu la théologie. où en est-elle? Quand on regarde chaque personne individuellement, eh bien, on peut contempler Dieu dans ses attributs, je dirais facilement, d'une certaine façon, bien qu'évidemment, on n'épuise pas la matière, loin s'en faut. Mais il y a le Père qui, dans l'Apocalypse, vous savez, il est sur son trône, et il y a comme quelqu'un, dit Saint Jean, tout en haut de ce trône, il est très élevé, et quelqu'un qui ressemble à une personne, mais on ne peut pas dire qui c'est exactement, on ne peut pas voir ses traits précisément. C'est le Père, dans sa transcendance, c'est l'essence divine qui est complètement inaccessible aux hommes. Et aucun homme ne peut contenir, soutenir, contempler cette divinité en elle-même. C'est la transcendance au sens le plus absolu, le Père. Et quand on fait le fameux triangle trinitaire, eh bien, il est la pointe du haut. Et à la base du triangle, eh bien, il y a ces deux angles où l'Esprit-Saint et le Christ sont sur le même plan, un plan d'égalité dans ce sens-là, parce qu'ils se manifestent. Ils rendent Dieu présent dans le monde. Jésus, c'est le miroir du Père, il le dit lui-même. Donc, c'est facile. Qui m'a vu, qui m'a entendu aussi, devrait-on dire, à entendre son message, son évangile, qui m'a vu, qui m'a entendu, qui m'a aimé de tout son cœur, a vu le Père, a entendu le Père, a aimé le Père. Et parce que le Père et moi, dit Jésus, nous sommes un. Donc, le Fils, on le voit par l'évangile. On n'a pas besoin de savoir exactement quelle était la couleur de ses cheveux, etc. Mais on s'en fiche. L'évangile nous le rend présent. C'est la première prière de l'Église. Lire l'évangile, prier l'évangile, s'unir au message de l'évangile. Et puis il y a l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, lui, il rend le Christ présent. C'est en cascade. Le Christ rend le Père présent et l'Esprit Saint, lui, rend le Fils présent. Il nous fait ressouvenir de tout ce que Jésus a dit. Il est cet esprit de douceur, d'amour, qui unit le Père au Fils. Alors la théologie classique décrit ainsi les relations triangulaires de la Trinité. Le Père se connaît. Et cette connaissance, c'est le Christ lui-même. En regardant le Christ, il se connaît lui-même en quelque sorte. Se connaissant, le Père s'aime, et c'est l'Esprit Saint qui unit, qui est la relation d'amour entre le Père et le Fils, et qui est autonome en tant que personne lui aussi. Mais c'est très curieux, lorsqu'on regarde chaque personne, on arrive à contempler le mystère de la Trinité, mais dès qu'on les met ensemble, ce mystère est incompréhensible. Parce qu'il échappe totalement à notre expérience et à notre psychologie humaine, à tout notre conditionnement créatural. On ne peut pas rencontrer quelqu'un et imaginer qu'on a trois personnes en face de soi. C'est indépassable pour nous. Même dans des cas pathologiques où les gens peuvent avoir plusieurs personnalités, eh bien, on est toujours en communication au niveau expérimental, eh bien, avec l'une ou l'autre de ces personnalités, mais jamais avec les trois à la fois. Même dans des cas pathologiques, il n'y a pas de mélange. Dieu est au-delà de notre conditionnement. Il est, et en tant que Trinité, il est ce mystère ineffable dans lequel nous sommes introduits néanmoins par amitié. Dieu nous traite en amis quand il nous demande de contempler la Trinité, que nous ne comprenons pas, qui nous dépasse tellement. Mais faisons comme Abraham, acceptons humblement de ce mystère-là. Et nous avons de la chance parce que Jésus l'a commenté. Abraham, lui, il était vraiment dans la foi pure et nue, aveugle sous l'angle de la théologie de la Trinité. Il l'avait pourtant sous les yeux, mais il ne se doutait pas. C'est beau aussi de voir. Ce n'est pas l'essence incréée de Dieu qui va dans le monde, et pourtant si, puisque ce sont les personnes de la Trinité, le Fils, il y a 2000 ans, l'Esprit Saint continuellement au long de l'histoire. qui agissent dans le monde. Le monde n'est pas coupé de Dieu. C'est ça qui est très beau. Dieu ne répugne pas à venir visiter sa création. Mais, je le répète, il attend de nous, en retour, cet acte de foi qui reconnaît sa souveraineté universelle sur toutes les créatures et en premier lieu sur nous-mêmes. Mais quand on a ça, on est introduit, puisqu'il est si bienveillant, il nous traite comme des enfants et pas comme des petites machines qu'il aurait fabriquées pour se distraire. Dieu n'a pas besoin de se distraire, il trouve en lui-même sa béatitude. Mais ce n'est pas notre cas. Nous, nous devons aller vers Dieu. Si, à la manière des démons, nous faisons de nous-mêmes une fin en soi, si nous voulons trouver en nous-mêmes notre béatitude, la construire nous-mêmes, sans avoir besoin de Dieu, parce qu'on le trouve indiscret, parce que ça nous met en rogne de considérer qu'il y a quelqu'un de plus grand que nous, eh bien dans ce cas-là, si nous faisons cela, nous serons coupés du bonheur éternel, et du bonheur tout court, de la plénitude, la vie nous échappera. Celui qui ne croit pas au Fils de l'homme, celui-là est déjà jugé. Mais ceux qui croient ne paraîtront pas en jugement. C'est quand même très extraordinairement positif. Nous ne comparaîtrons pas en jugement. Souvent, depuis le Moyen-Âge en particulier, on a un peu durci la réalité du purgatoire, au sens que ça durerait des siècles et des siècles. Il ne faut pas regarder d'une manière aussi, arithmétique, on va dire, la charité divine. Nous avons besoin d'une chose, c'est d'aimer Dieu plus que nous-mêmes. Et ça, tant que ce n'est pas réalisé, tant qu'on n'a pas compris que Dieu est notre seule possibilité de bonheur et de réalisation, et que nous devons nous trouver dans la louange de pouvoir être pour Dieu une source de plaisir et de complaisance, alors on a besoin de purgatoire. Au purgatoire, il y a tout le monde, il y a les saints, il y a même la Vierge Marie. Mais il n'y a pas Dieu, il se fait attendre. Afin que les croyants finissent par comprendre là-haut combien Dieu est nécessaire à leur vie, qu'il est leur vie. Jésus, lui, il nous invite et il nous introduit dans la Trinité. C'est ce qu'il dit à ses disciples au moment juste avant la Passion, « Je ne vous appelle plus serviteur. »